Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver alors que le mercato est désormais terminé, alors que l'Europe va bientôt reprendre ses droits. On va retrouver nos meilleurs consultants aux quatre coins de l'Europe et ce lundi, le programme est très chargé puisque le week-end a été animé. On commencera cette émission avec la Ligue 1 et Elton Mokolo. Et cette question, où va l'Olympique de Marseille battu à Lyon dimanche soir? Gennaro Gattuso est-il en danger? Et surtout, à quoi faut-il s'attendre pour les semaines qui viennent? Elton nous éclairera. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair pour débriefer le choc entre Arsenal et Liverpool. La victoire des Gunners rebat encore un peu plus les cartes dans ce championnat complètement fou. On touchera aussi un petit mot des Blues de Chelsea. On ira ensuite en Italie parler du cas Benjamin Pavard avec Guillaume Maillard Pacini, homme du match face à la Juventus Turin, mais surtout excellent cette saison avec les Nerazzurri. Et on terminera enfin cette émission avec un détour par l'Espagne. Real Madrid-Girona, c'est samedi prochain, c'est le match pour le titre. Anna Caro nous éclairera sur ce choc inattendu, mais qui promet beaucoup sur le papier. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis matins désormais en podcast sur les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC dans votre barre de recherche. En bonus, vous aurez le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on commence ce Tour d'Europe par la Ligue 1. On retrouve Elton Mokolo, notre spécialiste de notre championnat préféré, on va le dire. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Comment ça va, Elton?
Salut Cyril, j'espère que tu vas bien. La trêve hivernale façon Bundesliga a fait énormément de bien, ouais. Mais on était quand même très impatients à l'idée de reparler de la Ligue 1, surtout qu'on sort d'une belle journée.
Ouais, on va parler de tout ça, on parlera évidemment et on débriefera cet Olympico et cette victoire de Lyon face à l'OM. Parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, j'aimerais bien qu'on refasse un petit point au classement. Le PSG est toujours leader, mais derrière, il y a, je ne sais même pas combien d'équipes mettent dans l'eau parce que finalement, cette Ligue 1 est très serrée. De Nice à Marseille, il y a 10 points d'écart. Il y a Nice, il y a Brest, il y a Lille, il y a Monaco, il y a Lens, il y a Reims et il y a l'OM. Allez, on va se mouiller d'entrée pour la reprise de Tour d'Europe. Quelle équipe sera sur le podium? Quelles équipes seront?
Ah mais franchement, c'est un peu plus compliqué d'annoncer une équipe sur le podium parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un championnat en mutation parce que à la trêve, moi je me dis que le podium ne va pas bouger parce que Nice était bien, Monaco était bien. Et il s'avère que Monaco non seulement n'est plus troisième, mais est cinquième du championnat.
Ouais, et puis la donc, dynamique par rapport incite à ça, pas à l'optimisme en plus.
Ça incite pas à l'optimisme et à côté de ça, tu as une montée en puissance de Lille et à côté de ça, tu as l'étonnant Brest. Donc c'est des variables que je n'avais pas forcément envisagées. Donc au moment de définir le podium, je vais me garder de donner un podium parce que moi j'avais dit Nice-Monaco allait accompagner le PSG avec beaucoup de conviction. Monaco est déjà cinquième du championnat, ce qui ne les interdit pas de revenir parce qu'il peut y avoir des périodes de moins bien dans un championnat et Monaco peut tout à fait refaire une série positive comme ils ont l'habitude de faire et revenir sur le podium. Mais bon allez, parce que c'est le retour de Tour d'Europe, je vais quand même dire que Monaco va revenir sur le podium, accompagné de Lille.
Moi, je vois Nice. Voilà. Voilà un peu d'audace. Merci Elton pour ce pari. On va y venir fatalement parce qu'il y a une équipe absente de ton pronostic. C'est l'Olympique de Marseille qui a chuté en fermeture de cette 20e journée, une défaite à Lyon, 1-0. Le score ne dit peut-être pas tout de l'ampleur de la débâcle côté marseillais.
Oui, exactement, à savoir que 1-0, on pourrait même qualifier ça de point positif pour l'Olympique de Marseille. Alors, ça ne veut pas dire que l'Olympique Lyonnais, de notre côté, a été extraordinaire, Mais c'est de nouveau une prestation indigente, insuffisante. Il n'est pas en adéquation avec les objectifs de l'Olympique de Marseille. Et ça pose sérieusement question sur la capacité de l'Olympique de Marseille à se redresser. Parce qu'aujourd'hui, l'OM est 8e du championnat. Ouais. Et ça, c'est pas neutre. Et quand tu regardes depuis le début de l'année 2024, parce qu'on est en 2024 maintenant, on s'était quitté en 2023, l'Olympique de Marseille a seulement remporté un match face à Thionville en Coupe de France. Donc, pour moi, c'est très inquiétant alors qu'on arrive sur un mois de février qui va être très chargé avec ouais. le retour des compétitions européennes et donc de l'Europa League face au Shakhtar Donetsk. Et moi, je vais même avancer par rapport à l'avenir de Gattuso, qui est pour moi dans une communication de crise quand il commence à dire que oui, le match nul aurait été normal. Non. Du côté de l'Olympique de Marseille, il faut avoir une victoire. Et là arrive l'Europa League. Et moi, je me dis qu'une défaite à Hambourg face au Shakhtar, suivi d'une élimination au Vélodrome, pour moi, ça pourrait sonner le glas de l'aventure de Gattuso à l'Olympique de Marseille, parce que je crains une démobilisation à partir du moment où tu n'as plus la Coupe de France, à partir du moment où le championnat est sérieusement compromis ouais. pour une qualification en Ligue des Champions, même si une qualification européenne, ce sera encore possible. Mais si en plus, en Mais Europa ouais, League, ouais, tu es en difficulté au point de sortir, quelle est la pertinence de continuer avec Gattuso? Et là, on serait sur un événement sans précédent pour Longoria, à savoir qu'il devrait prendre ses responsabilités pour relancer la dynamique. Parce que, Cyril, c'est très important, l'Olympique de Marseille ne peut pas faire 2 ans de suite sans Ligue des Champions.
Ouais. Et comment tu expliques, parce qu'on a beaucoup parlé, c'était la période du mercato, bah, du rôle notamment de Pablo Longoria dans ce grand puzzle humain et cette tour de Babel footballistique qui est devenue l'OM. Est-ce que c'est lui le principal responsable de ce qui se passe actuellement? C'est-à-dire qu'on ne voit pas de ligne directrice dans cette équipe de l'OM, on ne voit aucune identité finalement et on ne comprend pas bien ce que veut faire Gattuso de match en match. C'est un peu morne-plaine en fait, tout simplement.
Alors évidemment, la responsabilité de Pablo Longoria, elle n'est plus à démontrer parce qu'on ne comprend pas forcément. Il y a un manque de visibilité quant au projet Olympia. Et encore cet hiver, tu as sorti Renan Lodi qui est arrivé l'été dernier. Ouais. Bon, pour le coup, c'était une opportunité de marché avec l'Arabie Saoudite qui a frappé à ta porte. Et Vitinha qui, moins d'un an après son arrivée, record du club, est déjà reparti du côté du Genoa. Ça interpelle. Maintenant, une fois qu'on a dit ça par rapport à Pablo Longoria, et Dieu sait qu'on en parle très souvent, Gennaro Gattuso est arrivé avec cette idée qu'il allait redresser l'Olympique de Marseille. Et je te dis redresser, quand Gennaro Gattuso arrive à l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille n'est pas en crise sportivement. Ouais. Il faut bien insister là-dessus. Ouais, ouais. L'Olympique de Marseille n'a plus d'entraîneur après des événements extra-sportifs. C'est-à-dire que Gennaro Gattuso n'a pas pris une équipe malade, une équipe qui souffrait d'un manque de confiance. Gennaro Gattuso a pris une équipe qui regardait le podium de Ligue 1. Et 5 mois de compétition plus tard, parce qu'on est quand même à 6 mois de compétition pour l'Olympique de Marseille et 5 mois quasiment pour Gennaro Gattuso, on regarde davantage vers la 9e, 10e place. Ouais. Et ça, ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Donc aujourd'hui, Pablo Longoria a une grande responsabilité, mais Gennaro Gattuso a aussi une responsabilité importante parce qu'il n'arrive pas à imprimer un style à l'Olympique de Marseille et surtout, il n'arrive pas à redonner une compétitivité à l'Olympique de Marseille. Autant l'année dernière avec Igor Tudor, la victoire était le quotidien du côté de l'Olympique de Marseille, ouais. autant avec Gennaro Gattuso, la contre-performance est le quotidien de l'Olympique de Marseille.
On va passer à l'autre Olympique qui, pour le coup, s'est offert une sacrée victoire dimanche, c'est l'Olympique lyonnais. Alors, il y a désormais 3 points d'avance sur le premier barragiste, et le seul d'ailleurs, le seul barragiste de Ligue 1. Est-ce que déjà, je vais te poser la même question qui a été posée à Alexandre Lacazette, pour toi, c'est le match référence de l'Olympique lyonnais cette saison?
Enfin, un match référence, oui, on peut le qualifier comme ça, parce que même si tu gagnes que 1-0, il y a surtout le sentiment que Lyon, à la différence de l'Olympique de Marseille, a été compétitif de bout en bout, à maîtriser les événements. Enfin, je te dis maîtriser les événements, il y a quand même une barre d'Aminarit en tout début ouais. de match, bon, même si c'est un fait extraordinaire, un sauvetage sur la ligne frappe sur la barre de Maitland Nice. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment senti l'Olympique lyonnais comme un collectif. Et ça, c'est un élément qui est très important parce qu'on a souvent reproché à l'Olympique lyonnais, du moins sur la première partie de saison, d'être un amas d'individualité ouais. sans pour autant être un collectif. Et là, on a vu une équipe à l'unisson, à commencer par l'attaque où le travail avec et sans ballon a été vraiment intéressant, et défensivement parlant, où t'as pas concédé avec une défense à 3. Je pense que la défense à 3 était bien sentie parce qu'on sait que l'Olympique de Marseille est une équipe axiale et pas forcément une équipe de côté, et donc il fallait mettre de la densité pour les gêner, et c'est ce qui s'est passé. Et à côté de ça, on a eu un Pierre Sage qui a vraiment fait une composition avec des choix.
Ouais.
Et ça, c'est un élément qui m'intéresse vraiment parce que à partir du moment où il a eu un mercato, je sais qu'on va en parler, un mercato conséquent, il a pu influer sur le tableau nord.
Est-ce qu'il faut regarder devant maintenant pour Lyon? Parler de maintien et de relégation, c'est déjà du passé ou faut pas tomber dans ce piège-là justement?
Non, carpe diem quand on parle de l'Olympique Lyonnais, à savoir que l'objectif reste toujours le maintien. Il y a seulement 3 points par rapport au barragiste. Mais ce qui serait très intéressant pour l'Olympique Lyonnais, c'est de regarder devant justement pour s'éloigner du spectre de la relégation. Et là, tu as quand même des matchs très intéressants qui arrivent. Bon, mercredi, c'est Lille en Coupe de France. À côté de ça, tu as le déplacement à Montpellier. Montpellier qui t'avait fait mal
Ah
à l'aller à
ouais.
la maison. Ensuite, tu as un match face à Nice. On sait très bien que le dernier souvenir d'un match Nice-Olympique Lyonnais dimanche soir, c'était les pires 0-0 de la saison. Donc, si tu arrives à faire 6 points, on
Peut
pourra
basculer
commencer à
sur quelque
parler de
chose.
redressement de l'Olympique Lyonnais. On pourra se dire que l'Olympique Lyonnais peut envisager de s'éloigner de la zone de maintien. Mais pour revenir sur la rencontre face à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment un match probant avec une équipe qui était vraiment à l'unisson de ce que voulait faire l'entraîneur.
Tu as parlé des choix de Pierre Sage, tu me vois venir avec mes gros sabots. Un joueur était remplaçant, c'est Ryan Cherki. On parle toujours beaucoup de lui parce que son talent est immense. Est-ce qu'avec le mercato lyonnais, notamment l'arrivée de Benrahma sur le gong, Ryan Cherki est en danger tout simplement pour sa place de titulaire à Lyon?
Ah bah oui, il est en danger, parce que je pense que Pierre Sage avait une communication qui était protectrice avec Ryan Cherki à un moment où l'Olympique Lyonnais n'avait pas encore enregistré ses recrues. Je fais référence à sa conférence de presse d'avant-match contre Rennes, où il était dans la câlinothérapie. Là, à partir du moment où Pierre Sage a du choix, a de la consistance dans ses choix, il peut faire valoir la performance, et notamment dans un secteur où est présent Ryan Cherki. Et là, c'est une indication. Hier soir, Ryan Cherki ne rentre pas, alors que l'Olympique Lyonnais mène 1-0, ce qui est un contexte favorable pour Ryan Cherki. Donc Ryan Cherki doit prouver à l'entraînement, Ryan Cherki doit prouver en match pour être un joueur fiable aux yeux de Pierre Sage. Et le statut d'enfant gone, le statut de joueur formé au club ne suffit plus, parce que tu as quand même des joueurs de qualité qui sont arrivés, à savoir Victor Ban, Benrahma, qui, sans avoir passé dans des gros clubs, ont des passés dans des clubs européens qui sont quand même très intéressants. Donc, hier, c'était quand même une sérieuse indication pour Ryan Cherki et même pour un Dejan Lovren dans le
Tout
secteur
à fait.
défensif, à partir du moment où il y a un Tolisso qui est quand même arrivé en tant que défenseur central. Mais pour recentrer sur Ryan Cherki, oui, évidemment, c'est pas une sanction, mais c'est un avertissement sans frais, à savoir que sa place va falloir la gagner, à la différence peut-être de l'été dernier, on se disait qu'il fallait construire autour de Ryan Cherki. La performance a sanctionné Ryan Cherki, la compétition a sanctionné Ryan Cherki. Aujourd'hui, c'est Ryan Cherki qui, avec de l'humilité, doit retrouver une place déjà dans les 14, 15, 16 joueurs en tant que remplaçant.
Eh ben merci beaucoup Elton pour ce gros point Ligue 1. Mon petit doigt me dit qu'on te retrouvera la semaine prochaine pour parler d'un club qui jouera en Ligue des Champions, à savoir le Paris Saint-Germain. D'ici là, regardez la Ligue 1, toujours, encore et toujours avec Eurosport. Et on se dit à la
On
semaine
a encore une
prochaine
fois
Elton.
on a une belle journée de championnat et
Oui, ça
j'insiste
ne nous est pas
là-dessus.
arrivé si souvent que ça cette saison, donc
Ouais, c'est ça.
faut en profiter. Merci beaucoup Elton et nous, on va quitter la France, on rejoint l'Angleterre. Allez, on continue ce tour d'Europe et on atterrit en Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume, qui a suivi un dimanche encore très animé en Angleterre avec cette victoire d'Arsenal face à Liverpool. Comment ça va, mon cher Philippe?
Pas trop mal. C'est un petit peu trop tard, je pense, pour se souhaiter bonne année. Ou est-ce qu'on a le droit quand même de le
Normalement,
faire?
c'est jusque fin janvier, mais on peut faire une exception pour les
Voilà.
auditeurs de Tour d'Europe.
Absolutely. Happy New Year, everyone. Voilà.
Merci, merci beaucoup à toi aussi, Philippe. On va donc évoquer cette victoire d'Arsenal face au leader, Liverpool, parce que c'était l'enjeu de cette journée en Première Ligue. Une victoire qui doit beaucoup à l'énorme bévue d'Alisson, mais malgré tout aussi à la grosse prestation d'Arsenal. On va peut-être prendre déjà un pas de recul en regardant le classement.
Oui.
Arsenal n'est plus qu'à 2 points de Liverpool au classement. Quand on s'était eu en décembre, on se souvient que Arsenal était encore en lice. Et puis, il y avait eu les fêtes qui avaient fait très très mal aux Gunners, notamment une défaite face à Fulham, si je ne dis pas de bêtises, une autre face à West Ham.
Absolument.
Ça avait été compliqué.
Exact.
Est-ce que là, on peut dire que Arsenal est relancé pour le titre de champion ?
Oui, même si, je le dis maintenant, mais on en reparlera, le plus grand vainqueur, c'est évidemment Manchester City dans cette affaire. Hein, on est bien d'accord, parce que si Manchester City gagne ses deux matchs en réserve contre Brentford, dont le premier est ce soir, ça signifie que Manchester City sera en fait en tête du championnat d'Angleterre, et après, bonne chance aux autres. Cela dit, je crois que le résultat, pour une part, et puis d'autre part, également la qualité de la performance des Gunners, m'a un petit peu surpris. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons qu'ils ont été, parce qu'en effet, on peut s'attarder sur la bévue d'Alisson, mais on pourrait également s'attarder sur la bévue de David Raya et Saliba.
Ouais,
de,
tout à fait.
Et la mésentente et le CSC de Gabriel. Donc, je dirais c'est une bévue partout, en l'occurrence. Mais au niveau de la prestation qui a été fournie par Arsenal, vraiment chapeau. Ça allait beaucoup plus vite dans la transition, la transmission du ballon que d'habitude. Il y a toujours des problèmes de finition avec beaucoup d'occasions et peu de concrétisation malgré tout. Parfois, une certaine hésitation à appuyer sur la gâchette, hein, Martin Odegaard en particulier. Des problèmes dans la concrétisation. Mais en dehors de cela, ce que l'on a vu, c'est une des performances les plus, pas seulement les plus encourageantes, mais les plus convaincantes d'Arsenal cette saison, de loin. Et puis, pas sur 10 ou 20 minutes, comme on l'a vu dans d'autres matchs, sur toute la rencontre, mis à part peut-être le tout début de seconde période, mis à part ça. Mais sinon, l'Arsenal qu'on a vu jouer là, qui en plus de ça était un Arsenal qui n'était pas au grand complet, Gabriel Jesus était absent, il a fallu remplacer Zinchenko à la mi-temps par Kivior, c'était peut-être pas nécessairement ce que souhaitait Mikel Arteta. Il y a toujours des joueurs qui manquent, comme Thomas Partey, hein, qu'on ne voit plus, je me demande si on va revoir un jour. Mais malgré tout, encore une fois, la qualité de la performance, la concentration et des joueurs tout au long des 90 minutes, chapeau. Quand on voit d'ailleurs, quand on écoutait Jürgen Klopp après la rencontre, il reconnaissait, il disait bon, il n'y a pas de problème.
Tu connais bien l'écosystème des Gunners,
oui.
Philippe. J'aimerais avoir ton avis parce que Mikel Arteta, après le match, a aussi dit que c'était la meilleure ambiance que j'ai vue de la saison à l'Emirates Stadium.
Oui.
Tu nous avais consacré pour Eurosport.fr un article autour de cette incompréhension presque née de cette saison où le public d'Arsenal ne reconnaissait pas forcément son équipe et que donc il y avait un petit peu des crispations en tribune. Est-ce que là, c'est le genre de match, au-delà de parler du titre, qui a même de recréer une dynamique très très positive autour de cette équipe?
Absolument. Et encore une fois, Mikel Arteta, lui, d'ailleurs, l'a noté, l'a relevé dans son point presse après match, immédiatement, en parlant de l'aide du public. Très honnêtement, le stade, je pense, on a au niveau sonore, au niveau décibel, on était au top de ce qu'on a vu cette saison. Et en plus de ça, ce n'était pas des explosions épisodiques.
Ouais.
C'était en fait un soutien qui s'est manifesté tout au long de la rencontre et qu'on avait eu du mal à sentir auparavant cette saison où le stade était parfois un petit peu à plat, où ça chantait moins, où les gens partaient avant la fin de la rencontre. Et là, tout d'un coup, alors est-ce que c'est l'adversaire ? Est-ce que c'est le contexte ? Est-ce que c'est aussi le fait... Bon, on ne va pas laisser Liverpool faire déplier le tapis rouge pour Jürgen Klopp et servir de victime consentante. Non, pas du tout. Donc, il y a eu un réveil. Est-ce que c'est la nouvelle année ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'on a maintenant la blessure des défaites contre Fulham et West Ham dont tu parlais, qui ont fait tellement mal, commence à cicatriser ? Tout cela peut être ensemble. Et on a retrouvé en effet un public de l'Emirates chauffé à blanc ou chauffé à blanc et rouge en l'occurrence, et qui a soutenu son équipe magnifiquement, mais qui a aussi été payé de retour, je dirais. Les joueurs ont immédiatement répondu. Moi, une chose qui m'a vraiment frappé dans cette rencontre, c'est l'importance de Jorginho au milieu de terrain.
Ouais,
la façon match, oui, tout à fait justement, quand il est avec Declan Rice en milieu de terrain, La façon dont le milieu des Gunners s'organise et la rapidité avec laquelle le ballon passe de ligne à ligne est totalement différente que lorsque nous avons d'autres combinaisons en milieu de terrain.
Ouais.
C'est un joueur tellement fin, tellement subtil, tellement élégant, tellement intelligent, qui certes est un petit peu lent. Je veux dire, Rice et Jorginho C'est pas vraiment des flèches, quoi, au niveau de la rapidité sur le terrain, mais par contre, au niveau de la rapidité de pensée, là, par contre, c'est absolument formidable. Et je pense que le public a réagi à ça aussi. Il a senti que les paroles qu'avait prononcées Arteta avant la rencontre, qu'il fallait entamer cette rencontre à 100 à l'heure, qu'il fallait vraiment, comment dire, tout donner, y compris dans les prises de risque.
Ouais.
On a retrouvé un petit peu l'arsenal de l'année dernière.
Ok.
Et immédiatement, le public s'est mis en phase.
Ok.
Et si jamais il continue comme ça, en effet, oui, tout à fait, ça va être un atout formidable pour eux, pour terminer dans le top 4 et puis pour continuer à être un challenger pour le titre.
Y a une autre équipe qui est plus que challengeuse pour le titre, c'est Liverpool, puisque Liverpool est encore leader après, malgré cette défaite. Il y a une actualité qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est évidemment le départ de Jürgen Klopp, qu'on a appris il y a quelques jours désormais. Départ de Jürgen Klopp en fin de saison. Est-ce qu'il y a le risque que ces 6 prochains mois soient un petit peu une tournée d'adieu pour Klopp et que Liverpool verse un petit peu dans le romantisme et en oublie un petit peu ses obligations sportives.
Alors, que Liverpool verse dans le romantisme, ça, on va pas y couper. C'est
Ouais.
Liverpool, qui est une ville de grosses émotions. Les Scousers sont des, j'allais dire, sont des Anglais. J'ai presque du mal à dire les Scousers sont des Anglais parce que eux se considèrent pas anglais, se considèrent Scousers.
Ok.
Mais ce sont des gens dont l'émotion est à fleur de peau à Liverpool. Hein.
Ouais.
Et en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles Jürgen Klopp a annoncé cette nouvelle aussi rapidement que ce qu'il a fait, et qui dans d'autres circonstances aurait pu prêter à interrogation, en disant est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Pas évident. Mais à Liverpool, je crois que l'idée pour lui, c'était justement d'atténuer le choc
Ouais.
sur plusieurs mois, de faire en sorte que les gens prennent le pli et s'habituent à l'idée que cet homme qui a été pour eux absolument tous, absolument tout, allait s'en aller. Parce que les gens s'imaginaient qu'il resterait pour l'éternité. Ben
Ouais.
non, la vie n'est pas comme ça. Donc, il y a un petit risque, en effet. Il y avait un petit risque. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va handicaper Liverpool jusqu'à la fin de la saison.
OK.
Je crois que c'est plus, on risque plus d'avoir l'effet d'un Liverpool qui est porté justement par le désir et l'espoir de fournir à cet entraîneur historique la sortie en triomphe qu'il mérite. Alors, est-ce que ça sera en Première Ligue? Est-ce que ça sera en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Mais dans d'autres circonstances, Cyril, oui, je te dirais en effet, ça pourrait être comme ça, mais pas dans ce cas-là.
Ok. Dernière équipe peut-être qu'on voulait évoquer, Philippe, aujourd'hui avec toi, c'est une équipe qui est 11e, si je ne dis pas de bêtises, de Première Ligue, voire 12, peut-être je confonds, mais
Onzième.
ça dit à quel point
Onzième.
on est dans un ventre mou, très très mou. C'est évidemment les Blues de Chelsea, défait à domicile par Wolverhampton 2-4. Et on a l'impression que l'état de grâce, si tant est qu'il ait existé pour Mauricio Pochettino, est déjà terminé et qu'on est retombé au même niveau que la saison passée finalement.
Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'on pensait que il s'agissait simplement d'une question de temps, que ce Chelsea avait des résultats en dents de scie, c'est l'équipe la plus irrégulière du championnat d'Angleterre, mais que de temps à autre, on sentait, on pressentait qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Et ce qui se mettait en place, en fait, c'est le chaos. Et ça, on ne s'en rendait pas compte. Et ce qu'on a vu contre les Wolves dépasse l'entendement.
Ok.
Ça dépasse l'entendement parce que Mauricio Pochettino, malgré tout, n'a pas bâti seulement son image et sa réputation sur le fait qu'il a des équipes qui sont très joueuses. Il a aussi bâti sa réputation sur le fait qu'il avait des équipes très difficiles à battre. Et en l'occurrence, ce qu'on a vu défensivement de la part de Chelsea dans cette rencontre contre les Wolves, c'est absolument consternant. J'ai vu cette expression étonnante d'un internaute qui a des anglais qui a décrit la défense des Blues comme étant aussi plus poreuse que l'oreiller d'un hérisson.
C'est une belle expression.
C'est une belle expression et elle correspond assez à la réalité parce qu'en fait, les Wolves auraient pu l'emporter sur une marge encore plus importante. Et Mauricio Pochettino l'a reconnu d'ailleurs après la rencontre. Le fait qu'une équipe comme Chelsea puisse concéder autant d'occasions, concéder autant de buts, et alors en plus de ça, des buts un petit peu comiques, hein,
Ouais.
c'est quand même. Ils en sont maintenant à 39 buts encaissés. 39 buts encaissés, ce qui signifie qu'ils ont encaissé plus de buts que Fulham, que Brentford ou qu'Everton, qui est dans la zone rouge. Bon, qui a eu des points de déduction, mais qui est dans la zone rouge. Donc ça veut dire qu'il y a de gros problèmes à ce niveau-là. Et de semaine en semaine, on n'a toujours pas l'impression que Mauricio Pochettino ait identifié quelque chose qui ressemble soit à un 11 ou 12 ou 13 types, si tu vois ce que je veux dire, avec
Ou
juste
même une
quelques
colonne
éléments qui changent.
vertébrale, ouais.
On n'a pas l'impression. Et d'une part, et de l'autre, on a une impression même de plus grande fragilité que... Parce qu'on les sentait à un moment, on en avait parlé ensemble, on se disait, la qualité de leur performance est telle que on se disait, c'est un manque de bol, c'est des petits points de régla à régler. Et puis en l'occurrence, tu te dis, mon Dieu, mais non, ça va bien au-delà de ça. Les joueurs qui ont été recrutés, n'oublions pas quand même, pour près d'un milliard, il n'y en a aucun dont je te dirais aujourd'hui, ça y est, il a fait son trou. Aucun. Par contre, j'en vois beaucoup qui, le trou, ils sont en train de le creuser pour eux-mêmes et pour leur équipe. Je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont laissé partir Mason Mount, le pauvre vieux qui a disparu dans ce trou noir qu'est Manchester United? Je me dis, mon Dieu, mais que Rudiger leur ferait du bien en défense centrale. Je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils ont laissé partir tous ces joueurs qui étaient à Chelsea depuis leur plus jeune âge, qui formaient un vrai groupe de blues, et tous sont partis. Et ils ont voulu faire du passé table rase, et la conséquence, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Mauricio Pochettino, au passage, n'est pas en danger. Il n'y a aucune rumeur de départ, de limogeage, etc., qui circule en coulisses. Donc il va rester là. Il va rester là à se gratter la tête aux côtés de son ami Jesús Pérez sur le banc de touche et au centre d'entraînement. Et il a dit, il va falloir qu'on essaie de autre, il va falloir qu'on essaie autre chose. Mais tu as l'impression, quand tu les vois jouer, que ça fait des mois qu'ils
Ils
essayent
essayent
autre
autre
chose.
chose et qu'il n'y a
À
toujours pas la
chaque...
recette.
Et non, il n'y a toujours pas la recette, il n'y a toujours pas l'équilibre. Par contre, il y a toujours les résultats qui tombent et qui font que Chelsea, en effet, est aujourd'hui 11e du championnat d'Angleterre.
Et puis Chelsea jouera mercredi en FA Cup sur le terrain de Aston Villa. C'est pas forcément un déplacement agréable à faire en ce moment. Et ben merci beaucoup Philippe. On se dit à bientôt et nous on va continuer ce tour d'Europe pour partir en Italie. Nous voici donc en Italie. On retrouve Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste Serie A. Ciao Guigui, come stai?
Ciao Cyril. Ciao Ben. Ben. On va faire quand même la pastille en français hein,
Oui,
pour les
et on parlera
auditeurs.
pas de Sinner non plus parce que ça fait une semaine, il faut que vous le sachiez. Vous le savez, Eurosport diffuse l'Open d'Australie et tous les tournois importants de la saison de tennis. Et évidemment, bah, Guillaume est devenu fan de tennis sur la
Quel
semaine
régal.
écoulée avec le titre de Jannik Sinner à Melbourne. On va parler football quand même, rassure-moi Guillaume.
Oui, allez, parlons football parce que je pourrais te faire 1 heure sur Sinner, donc on va quand même parler football.
Une petite image peut-être déjà pour commencer ce petit débrief italien. Tu vas nous parler d'un Français qui marque encore et qui brille encore.
Écoute, bonne nouvelle pour vous, Cyril, en France, parce que l'Euro, quand même, se rapproche lors du U24, et il y a un certain Olivier Giroud qui performe toujours autant. Alors, on rappelle qu'il est en fin de contrat avec l'AC Milan, c'est pas du tout ce qu'il va faire en fin de saison. Il y a quand même l'hypothèse d'un départ libre du côté de la MLS. Mais en attendant, en Serie A, c'est 11 buts, c'est 8 passes D, c'est toujours titulaire à l'AC Milan qui est troisième, malgré, on va dire, quelques turbulences au niveau des résultats et des prestations. Mais on a Olivier Giroud qui, malgré son âge, malgré le fait qu'il bah, se rapproche quand même des 40 ans, il est plus si loin dans 2 ans, et bah, il est toujours aussi performant. Et voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour Didier Deschamps à quelques mois de l'Euro. On a vraiment un Giroud qui est toujours dans une forme exceptionnelle avec Milan.
L'autre bonne nouvelle pour Didier Deschamps, Guillaume, c'est la performance d'un homme dimanche soir lors du choc entre l'Inter et la Juventus, remporté par l'Inter 1-0. C'est Benjamin Pavard, élu homme du match. La Gazzetta lui a donné la note de 7, qui était la meilleure note dans l'édition du jour. Avec ce commentaire, le mérite sur le CSC de Gatti lui en revient. Il provoque sa chance en s'aventurant dans la surface sans demi-mesure. Un match total. Il a aussi été très bon défensivement. Raconte-nous un petit peu son match, tout simplement.
Écoute, son match, c'est à l'image de son début de saison, c'est-à-dire de sa première partie de saison. C'est un joueur vraiment qui défensivement, alors tu le sais, il veut jouer dans l'axe. Alors il est axial droit dans la défense à 3 de Simone Inzaghi. Et on retrouve un Benjamin Pavard vraiment à son prime. C'est-à-dire qu'il s'est parfaitement intégré à l'Inter, il s'est parfaitement intégré au mécanisme de Inzaghi dans le 3-5-2 en central droit. Et vraiment, c'est un joueur qui a pris un niveau impressionnant à l'Inter. Les supporters en sont fous. Ça ressemble un peu à Marcus Thuram, puisqu'on avait
Ouais.
fait déjà,
Ouais, bien
on avait
sûr.
déjà parlé dans Tour d'Europe. Et c'est un peu pareil, sauf que là, on repasse en défense. Et voilà, il rentre. Alors, le premier but, c'est un CSC de Gatti, mais
Ouais,
ouais,
mais son
il est dans la
appel dans la
surface.
surface est
Exactement.
impressionnant. Ouais.
Et c'est ça sa force, c'est-à-dire qu'il arrive à se projeter, il arrive à amener du danger malgré le fait qu'il soit axial. Donc, il bénéficie d'une liberté que Ulas Inzaghi qui lui plaît. D'ailleurs, il a parlé dans l'après-match, il lui disait, mais moi, en Italie, c'est un championnat très tactique, mais je m'éclate
Ouais.
parce que j'apprends beaucoup de choses et je retrouve mon niveau d'antan. Mais on a vraiment un joueur qui, voilà, qui a atteint un niveau exceptionnel. Et tu parlais de la note de la Gazzetta. Moi, j'ai regardé un peu les notes dans les autres quotidiens. Et dans La Repubblica, qui est quand même le quotidien quasiment le plus lu en Italie, c'est un quotidien généraliste. C'était inscrit, Pavard est à San Siro depuis 6 mois, mais on a l'impression qu'il y est né. Et en
Ok.
fait, c'est un peu ça le sentiment qu'en Italie, c'est-à-dire qu'il est à l'Inter depuis 6 mois et on a l'impression qu'il y est depuis une vie tellement il s'est intégré, tellement il s'est peaufiné dans ce collectif et dans cet environnement.
Tu me confirmes que on a oublié totalement Milan Skriniar qui est parti
Voilà.
et que bah, Benjamin Pavard a pris sa place. Je crois qu'il est, il est à 14 victoires sur 18 matchs avec l'Inter. Et puis surtout, tu l'as dit, sa note moyenne dans la presse, elle est à 6,5 sur la saison.
Ouais, ce qui est très
Il
bien.
n'est jamais mauvais, en fait. C'est ça, le secret de Pavard.
Ouais, alors 6,5, c'est vrai, il faut savoir, c'est très bien parce qu'en Italie, alors on ne fera pas le débat
Oui.
maintenant, mais la moyenne est de 6 sur 10.
Ouais.
Donc crois-moi que 6,5 de moyenne, c'est déjà très bien. On rappelle que l'Inter est première, elle a battu la Juve, donc elle s'envole quand même vers son 20e Scudetto. On rappelle qu'elle prend pas de but. Donc c'est une équipe vraiment qui est lancée et Pavard y est aussi pour beaucoup.
Ouais.
Et Skriniar, honnêtement, Cyril, plus personne ne le connaît à l'Inter.
Ouais.
On a complètement oublié son existence. Voilà, on a regardé ce qui se passait forcément un peu au PSG. On voit bien que bon, voilà, aujourd'hui il est blessé, mais on va dire que la première partie de saison de Skriniar n'était pas non plus au niveau, on va dire. Donc non, Pavard l'a fait clairement oublier. Et si l'Inter aujourd'hui est première avec mérite et avec logique, parce que honnêtement, il n'y a pas photo sur les prestations pardon
Ouais.
qu'elle délivre en Serie A et pas que, elle a gagné la Super Coupe. Voilà, Pavard est pour beaucoup, il a fait son trou. Et on rappelle aussi, Cyril, que l'été dernier, alors, ça a été long hein, comme transfert
Ouais, tout à fait.
à se définir parce que le Bayern n'avait pas forcément mieux lâché, Tuchel non plus. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelques problèmes aussi en défense au Bayern. Et l'Inter avait tout fait pour leur coûter 30 millions d'euros hein, de transfert. À l'époque, vu de France, paradoxalement, on pouvait se dire, ouais, Pavard 30 millions, c'est un peu beaucoup pour le joueur
Ouais.
qu'il est devenu, on va dire, ou voilà, sur la pente qu'il avait pris dans sa carrière. Et aujourd'hui, à l'Inter, on s'est dit, mais quelle affaire on a fait
OK.
en prenant Benjamin Pavard. On a un joueur qui est expérimenté, qui apprend aussi encore beaucoup malgré le fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur quand même qui a du bagage, hein,
Ouais,
qui arrive
ouais.
du Bayern. Donc non, vraiment, c'est…
C'est vraiment son meilleur rôle en fait dans une défense à 3. Je te
Ouais.
coupe Guillaume, mais j'ai l'impression que c'est
Bien sûr.
aussi ça un petit peu le débat qu'il touche et que là, il est à mi-chemin entre latéral droit qui se permet des aventures dans la surface comme face à la Juve, mais aussi très sérieux défensivement. On l'a vu notamment à hauteur d'un retour impressionnant face à Vlahovic.
Bah, ouais, c'est ce que je disais, la liberté dont il bénéficie. Parce qu'à côté de lui, tu as Acerbi, voilà, qui ne bouge pas, qui est central, tu as Bastoni du
Ouais.
côté gauche. Mais c'est vrai que si Pavard a autant incité ces dernières années pour devenir central, pour jouer dans l'axe et surtout l'axe droit, c'est aussi pour jouer avec cette liberté qu'il a. Tu le vois sur le premier but, il se projette parce
Ouais.
qu'Inzaghi lui laisse cette liberté-là. Et vraiment, tactiquement, il se régale en Italie. Voilà, moi je suis assez curieux de savoir ce que fera Deschamps
Ouais.
à l'Euro. On parlait de Giroud à l'Euro, mais il va falloir aussi parler de Pavard parce que Pavard à l'Inter, aujourd'hui l'Inter Cyril est clairement l'une des meilleures équipes en Europe.
Ouais.
On a déjà parlé toi et moi dans le Tour d'Europe. Et Pavard aujourd'hui vraiment, voilà, c'est un joueur qui a pris une dimension assez dingue. Et voilà, Deschamps, je pense qu'il le voit parce qu'on sait que Deschamps suit forcément
Ce qui se
voilà,
passe en
ces joueurs
Italie. Rien
français.
n'est étranger
Exactement.
à Didier Deschamps en Italie.
Hier, Cyril, à San Siro, il y avait Thuram, évidemment, Lilian
Ouais.
Thuram dans les tribunes pour suivre Marcus. Mais je pense que Deschamps aussi pourrait l'appeler pour savoir comment ça se passe avec Pavard à l'Inter. Donc non, on a une Inter un peu Frenchie qui se dessine et on a un taulier comme Benjamin Pavard vraiment qui a été élu logiquement homme du match hier lors du choc contre la Juve.
Taulier, homme du match, ça te correspond parfaitement, Guillaume. Tu es l'homme du match de ce Tour d'Europe qui est de retour. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton intervention.
Merci, Sel.
On va quitter l'Italie et on va désormais terminer avec l'Espagne. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par le soleil espagnol. On retrouve Ana Caro, notre spécialiste de la Liga. Comment ça va, Ana ?
Ça va très bien, et toi ?
Bah écoute, ça va. Alors, avant d'évoquer l'actualité espagnole et notamment le match, presque le match pour le titre qui se joue samedi prochain entre le Real Madrid et Girona, on voulait évoquer aussi avec toi une actualité qui a touché le FC Barcelone la semaine passée. C'est l'annonce du départ de Xavi, qui fait un petit peu une Luis Enrique version 2017, à savoir annoncer son départ pour peut-être remobiliser son vestiaire. Est-ce que c'était inévitable à tes yeux ?
Je pense que c'était une belle issue, on va dire, parce qu'on l'a vu ces dernières semaines, c'était quand même très compliqué pour le Barça. Et là où Xavi, par exemple, en novembre, parlait d'un problème d'état d'esprit, d'un problème d'être physique, le fait qu'on soit là, fin janvier, avec toujours les mêmes problèmes au Barça, peut-être que lui-même se rendait compte qu'il n'avait pas toutes les solutions pour faire revivre ce Barça. Il est arrivé dans un Barça très, très, très compliqué. Il le sait, il le répète très souvent. Et je pense qu'il a aussi du mal à supporter toutes les critiques. Il faut savoir aussi qu'en interne, c'est pas forcément très joli. Enfin, il y a évidemment certains qui prêchent pour Xavi, d'autres contre Xavi. Et c'est sûr que dans un moment qui est quand même toujours aussi compliqué, hein, pour l'histoire du FC Barcelone, le fait de pas avoir toute une direction unie qui pousse derrière Xavi, on peut comprendre que lui s'en lasse. D'autant qu'il est pas systématiquement défendu par ses dirigeants dans la presse. Enfin, on a quand même la sortie de la Porta qui dit une fois la déclaration de Xavi faite, que si ça n'avait pas été Xavi, le coach serait déjà licencié. Donc c'est un peu inquiétant. Ça montre qu'il y a quand même une certaine confiance du board, mais pas trop.
Malgré tout, le Barça a réalisé une belle opération comptable ce week-end, puisque le Barça s'est imposé pendant que le Real Madrid et Girona ont fait match nul. On va parler de ces deux équipes-là, si tu veux bien, Ana, désormais, parce que samedi, c'est le match à qui tout double, presque, notamment dans un sens. Si le Real Madrid venait à l'emporter face à Girona, la Liga serait finie, à tes yeux ?
Oui, c'est sûr que la Liga serait sans doute finie, parce que là, on le voit en plus depuis la reprise, depuis début 2024, Girona a plus de mal. Les matchs sont plus poussifs. On voit que physiquement, certains joueurs commencent à flancher un peu. Et c'est pas inattendu. Quand on voit, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de Girona. Et il y a par exemple, si on pense à Savio, si on pense à Yann Couto, c'est des joueurs qui ont beaucoup fait pour Girona en début de saison, mais qui, faute de parfois de relais ou parce que aussi ça marche moins bien collectivement, il flanche un peu. Là, on a eu Aleix Garcia qui a manqué quelques matchs, qui était le capitaine, le référent de ce groupe, un peu plus âgé en plus que le reste du groupe de Girona. Et à côté, on a un Real Madrid qui ne lâche pas la cadence, et c'est d'ailleurs assez incroyable parce qu'ils ont énormément de blessés. Là, hier encore, ils ont perdu Rudiger pour le derby madrilène, et pourtant, sur la première période, il n'y a pas photo. C'est vraiment le Real qui donne son jeu, qui domine totalement l'Atlético.
Même Vinicius qui s'est fait un torticolis à l'échauffement.
Exactement, et qui a été remplacé in extremis par Brahim. Plutôt bon choix, vu celui qui marque. Mais non, on voit que le Real a davantage de ressources physiques, en tout cas. Et ça va au-delà de ça, c'est une question d'histoire aussi, d'expérience. On voit que le groupe du Real ne perd jamais confiance en lui, malgré certains contretemps, malgré des pertes de cadres importants. Et on n'a pas toute cette expérience-là du côté de Girona. Donc si le Real gagne contre Girona le week-end prochain, je pense qu'on pourra acter le titre du Real Madrid.
Alors j'aimerais bien qu'on parle du Real avant ce match-là, parce que je trouve qu'on a un peu du mal à réaliser à quel point Carlo Ancelotti fait des miracles quand même. Tu as parlé de la longue liste de blessés côté madrilène. C'est pas des moindres et c'est pas des postes anodins, puisque c'est quasiment toute la défense centrale qui est absente. On a parlé de Vinicius qui s'est fait mal. On se souvient qu'on a débuté la saison sans Karim Benzema et que pourtant Jude Bellingham marque but sur but. Est-ce que c'est peut-être la saison la plus aboutie de Carlo Ancelotti comme manager du Real Madrid, dans le sens où, là, pour le coup, pour tirer la quintessence d'un effectif, je ne sais pas si on pouvait faire mieux que ce qu'il est en train de faire.
Sans doute, oui, parce que quand il arrive au Real Madrid, il a toujours cette équipe qui est championne d'Europe, qui est... c'est presque difficile de la coacher quand on a on a Modric, Kroos, Casemiro au milieu de terrain. C'est difficile de leur donner des consignes presque tellement ils se connaissent par cœur, tellement ils sont des joueurs exceptionnels. Et là, c'est vrai qu'il est, il a perdu un peu chaque année des nouveaux cadres qui n'ont pas forcément été remplacés parce que par exemple, on avait Tchouaméni qui était venu pour suppléer Casemiro. Au final, il n'a jamais pris l'importance qu'a pu avoir Casemiro au milieu de terrain. Et puis là, cette saison, c'est vrai qu'il a énormément de blessés. Ouais. Il a réussi quand même à avoir plus ou moins là une solidité défensive. Alors c'est assez bancal hein, quand même. Si on regarde le match d'hier, c'est assez bancal, mais ça tient. Et parce qu'il y a un vrai état d'esprit collectif au sein de cette équipe et qui fait que tout le monde s'arrache et comprend les difficultés. Hier, Lucas Vázquez fait un très bon match. Ouais. C'est moins le cas, par exemple, de Nacho dans la défense. Mais voilà, ça, toute l'équipe fait les efforts, compense. Et il y avait ce tandem Rodrigo-Vinicius qui est vraiment la création de Ancelotti sur ce début de saison avec Jude Bellingham en 10. Et ben le fait d'avoir ce trio d'attaque qui est quand même très très mobile et qui est beaucoup moins en point fixe devant revient beaucoup plus facilement défendre et du coup ça compense toutes ces absences dans un groupe. Mais c'est vrai que d'un point de vue de management, c'est exceptionnel ce que fait Carlo Ancelotti, même s'il y a encore des discussions, des décisions qui sont discutées. Par exemple, hier soir, il sort Brahim Diaz alors qu'il vient de faire une action exceptionnelle et qu'il n'est pas loin de marquer un but qui aurait fait le tour des réseaux sociaux si ça avait été dedans. Et donc, il y a encore quelques choix comme ça qui sont critiqués de la part de Carlo Ancelotti. Mais quand on voit la cadence à laquelle tient le Real Madrid fou, en Liga avec tous ces absents-là, c'est vraiment très fort.
C'est quoi son secret de management? Parce que là, tu nous as donné quand même un indice. C'est que ce Real Madrid tient quand même à la solidarité. Et c'est vrai que, voilà, si on reprend le symbole de cette équipe madrilène cette saison, c'est évidemment Jude Bellingham. Si vous regardez les parties de Jude Bellingham, c'est pas uniquement avec le ballon. Hein. C'est quand même un joueur qui est très impressionnant dans le repli, dans le harcèlement. Enfin, voilà, qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Comment Ancelotti continue à réussir à délivrer ses messages, même pour de jeunes générations, même pour des joueurs qui pourraient se dire moi je suis attaquant désormais, c'est pas à moi de défendre. Comment fait Ancelotti pour être encore à la mode finalement?
C'est assez impressionnant, ouais, parce qu'en plus on sait qu'il a pas forcément les codes, il est pas trop sur les réseaux sociaux, enfin des choses comme ça. Le Real Madrid en tant qu'institution, on a l'impression que certains joueurs, quand ils y arrivent, ils prennent une nouvelle dimension. Il y avait l'interview d'Eden Hazard cette semaine.
Magnifique interview
qui expliquait que le Real Madrid, c'était un cas totalement différent et que lui, même s'il était très fort, en fait, il se rendait compte directement en arrivant en club que fallait être plus que très fort, qu'il fallait faire beaucoup d'efforts, qu'il y avait énormément de choses à faire pour jouer au Real Madrid. Et si, en fait, les joueurs qui sont au sein de cette équipe, même les plus jeunes, par exemple, si on parle de Camavinga, il en parle lui-même de cette exigence que requiert le Real Madrid. Et en fait, ils se mettent dans le moule. Et pour l'instant, il y a encore suffisamment de cadres, malgré la jeunesse de l'effectif et le renouvellement, pour faire persévérer ce moule. Et on a des Kroos, on a des Modric, et on en a d'autres derrière en défense, qui conservent un peu cette identité Real Madrid et qui la transmettent aux jeunes arrivants. Et par exemple, on a vu qu'Eduardo Camavinga, qui s'est blessé hier d'ailleurs, on l'a un temps envisagé comme défenseur central, parce que Rudiger était absent. Et Eduardo Camavinga, on sait que ça ne lui plairait pas de jouer comme défenseur central. Mais c'est le Real Madrid, donc il le fera. Et hier, Carvajal a joué défenseur central parce qu'il n'y avait pas Rudiger. Donc en fait, il y a toute cette... c'est comme si l'identité Real Madrid était supérieure. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire dépasser l'intérêt du groupe sur les intérêts perso, alors qu'on a énormément de stars, et dont Jude Bellingham dans le groupe. Mais Jude Bellingham qui joue presque pour deux sur le terrain, donc ça aide aussi.
ça aide pas mal, effectivement. Et on suivra évidemment l'évolution du Real Madrid cette saison, dès samedi face à Girona, mais aussi en Ligue des Champions la semaine d'après face à Leipzig. Merci beaucoup, Anna. Il est temps de refermer ce numéro retour de Tour d'Europe. On vous dit à la semaine prochaine. À peu près à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.